candidat républicain là-bas sur place. Et ici avec moi en studio, René Lec, notre analyste sur les questions américaines. René, bonjour.
Bonjour Abdou.
Alors je vais démarrer avec vous. Si on en tient compte, on tient compte un peu du fait que les partis au pouvoir généralement sont moins bien lotis que disons lors des élections de mi-mandat, sans compter l'inflation par exemple. Est-ce qu'on peut dire que les démocrates ont limité un peu les dégâts?
Ah oui, certainement. Vous vous souvenez, Kevin McCarthy, le leader au Congrès des Républicains, avait dit qu'il gagnerait avec qu'il récupérait au moins une soixantaine de sièges. Apparemment, au maximum, ils en récupéreront 4 ou 5. Donc, entre 4 ou 5 et 60, la différence est énorme. Et bon, quelque part, je disais hier à votre antenne à Arzuma que c'est étonnant parce qu'on se retrouve dans une situation où le vaincu a le sourire. Quelque part, les démocrates ont perdu au moins 4 à 5 sièges, mais quelque part, ils vont perdre. Sur ce point-là, c'est à peu près...
Mais ils peuvent aussi dire qu'une victoire, c'est une victoire, hein?
Oui, tout à fait. Oui. Les républicains, j'imagine que à leur place, c'est ce que je dirais, d'autant plus que s'ils se confirment, parce que ce n'est pas encore certain, comme vous le disiez, s'ils se confirment qu'ils remportent la chambre basse, en tout cas, c'est sûr que c'est une victoire. Le nouveau Speaker of the House, donc président de l'Assemblée nationale, en quelque sorte, sera Kevin McCarthy. Pourrait être Kevin McCarthy, parce que là également, il va y avoir pas mal de combats, de batailles entre républicains, hein, parce que ce n'est pas garanti. On ne sait pas encore ce que Trump va faire.
D'accord. Alors, Junior, la vague rouge que vous attendiez n'a pas déferlé. On a vu des fortunes diverses pour les candidats soutenus par Donald Trump, l'ancien président. Alors, qu'est-ce qui explique cela pour vous?
D'abord, merci pour l'invitation directe pour cette prestigieuse émission. Alors, la vague rouge n'est pas arrivée, mais bon, il y a beaucoup de raisons qui sont à la base. D'abord, les médias jouent un contre-poids par rapport à ça et a donné un peu une certaine complaisance à nous, aux républicains, disant qu'il y aura une victoire écrasante lors des élections, et ce qui fait que beaucoup de républicains sont restés à la maison. Donc, se sont dit, nous allons gagner de toute façon, c'est une victoire assurée. C'est ce côté-là qui nous a un peu déçus.
L'ancien président Trump est quand même descendu sur le terrain, il a fait campagne pour beaucoup de candidats.
Oui, ben les résultats sont là. Hein. Donc, le président Trump avait promis une victoire au minimum à la chambre basse, comme on dit, au House. Il a tenu sa promesse. Donc la victoire se confirme de plus en plus avec les House. Et donc nous aurons déjà la majorité et puis il y aura un nouveau leadership. Parce que la crise actuelle, c'est une crise de leadership. Vous voyez, d'abord, le premier objectif est atteint, de mettre Pelosi hors de la majorité, et nous avons le contrôle, nous aurons la commande de la Chambre basse, et probablement aussi du Sénat, parce que là, nous avons besoin de deux sièges. Donc, ça va se jouer avec Herschel Walker le 6 décembre en Georgia, et aussi... Déjà en Nevada, ces sièges-là, ça sera conforté pour nous.
René, vous voulez réagir par rapport à ce qu'a dit Junior, les médias mis en cause?
Oh, je ne sais pas. Bon, écoutez, il y a toujours beau jeu de critiquer les médias, de s'en prendre aux médias. Je sais que c'est le jeu favori, notamment de la candidate pour le gouverneur d'Arizona,
Carrie Lake,
qui n'est en rien apparenté à moi. Et c'est étonnant parce que elle-même est une journaliste, comme vous savez, et elle s'en prend régulièrement aux médias. Elle utilise des mots très très forts que je ne pourrais même pas répéter ici à l'antenne. Non, je pense que tout simplement ce qui s'est passé, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont joué. La question de l'avortement, je pense qu'elle a beaucoup mobilisé la jeunesse. Pour reparler de l'Arizona, en Arizona et en Géorgie, plus de 25%, une augmentation de 25% de participation des jeunes. Je pense que ça a été déterminant par rapport aux résultats que les démocrates ont pu faire.
Alors, je vais rester avec vous avant d'aller à Junior, sur l'impact des anciens présidents, justement. On a vu Trump et Obama multiplier les sorties durant les derniers jours de cette campagne. Comment cela a pu favoriser ou défavoriser les uns et les autres?
Écoutez, les candidats de Trump, notamment ceux qui étaient dans le déni des résultats des élections, des dernières élections, n'ont pas passé une bonne soirée mardi. Hein. Ils ont été perdants. Une journaliste du New York Times indiquait juste ce matin que Donald Trump était furieux depuis mardi soir, et en particulier dans la journée d'hier, parce que pour l'essentiel, les candidats relativement extrémistes qu'il a soutenus, qu'il a littéralement imposés aux primaires aux républicains, n'ont pas eu de bons résultats. Donc je crois que la participation, l'implication de Trump n'a pas été bonne pour les républicains. D'accord. Et maintenant, des gens considèrent que celle de Biden en Géorgie n'aurait pas été bonne pour Warnock, et c'est pour ça qu'il n'y est pas allé et qu'il n'ira peut-être pas pendant les élections de ballotage.
D'accord. Alors, Junior, vous avez soutenu Donald Trump en 2020, et durant la campagne, il a tenu des déclarations que certains considèrent comme, disons, une manière de préparer sa candidature. Il promet même de faire une grosse annonce le 15 novembre. Les résultats des élections de mardi sont-ils une bonne ou une mauvaise nouvelle pour une éventuelle candidature de Trump?
Non, le résultat est une bonne nouvelle pour la candidature de Trump, parce que le président Trump a les records. Vous voyez, sous l'administration Trump, nous avons eu une économie florissante. Nous avons eu même le foreign policy. La politique étrangère était très bonne, et l'inflation était presque réduite. L'économie, vraiment, il y avait un boom, il y avait un bon leadership. Et les États-Unis étaient respectés partout dans le monde. Et s'il y avait le leadership de Donald Trump, il n'y aurait même pas cette guerre de l'Ukraine. Vous voyez donc, ces élections ont montré les aspirations de la population américaine. Le peuple américain a besoin d'un bon leadership, a besoin d'un leadership fort. Et c'est ce qu'il réclame. Donc, le plus important ici, même si cette victoire est fine et est petite, mais la victoire est une victoire, vous voyez. D'accord. Donc, nous avons le contrôle. Donc, ces résultats montrent à suffisance que le peuple américain a besoin d'un nouveau leadership, a besoin d'un leadership de Donald Trump qui a imprimé aux États-Unis.
Voilà,
au début, en 2020, Biden n'avait pas les records. Maintenant, on sait voir ce qu'il est capable. Et le peuple américain vraiment aspire à un changement de leadership. Et Donald Trump est le bienvenu.
Mais comme je l'avais dit au début, quand même, les républicains attendaient un résultat beaucoup plus large au niveau de la Chambre. Alors, on me dit que Marilyn Seafolk, le professeur à Howard University, a pu nous rejoindre finalement. Marilyn, merci d'être avec nous. Alors, avant le scrutin de mardi, certains reprochaient un peu aux démocrates de n'avoir pas assez parlé de l'économie et de l'inflation, mais de se focaliser plutôt sur l'avortement et ce qu'ils considèrent comme une menace sur la démocratie. Finalement, est-ce que les démocrates ont eu raison ou pas de se focaliser sur des questions comme l'avortement?
Ok.
Marilyn, vous êtes là?
Oui, je suis.
Oui, allez-y, répondez à cette question. Merci d'abord de nous rejoindre finalement, quelques soucis. Est-ce que vous pensez que le discours des démocrates pendant cette campagne qui s'est focalisé beaucoup plus sur l'avortement et les questions d'ordre social, plutôt que l'inflation, finalement, ça a été une bonne ou une mauvaise chose?
Ça a été en général une bonne chose, parce que cela a mobilisé surtout les femmes, surtout les femmes jeunes qui sont très concernées. Et donc cela a permis de limiter ce qui pourrait être quand même quelques dégâts pour le Parti démocrate. On se rend compte que le Parti démocrate, et en général le parti qui est en place, perd en général en moyenne 40 sièges. Or là, ce n'est pas le cas. Donc les démocrates s'en sortent relativement vainqueurs de cette élection.
Et j'aimerais aussi vous poser une question sur l'impact des anciens présidents sur cette campagne. C'est une question à laquelle a déjà répondu René et Junior. Quelle est-vous votre lecture?
Alors, ma lecture est la suivante. Je pense que le président Barack Obama a eu beaucoup plus d'impact que le président Trump. Comme vous le voyez, beaucoup de ceux qui niaient les élections parmi les candidats, ceux qui niaient les élections. Il y en avait en tout 291 et 169 d'entre eux ont été élus. Donc il y a toute une bonne partie de ceux qu'on appelle election deniers, ceux qui niaient le résultat des élections de 2020, se sont retrouvés sans siège. Voilà, ils ont perdu leur siège. Et je pense que, donc, que le président Trump a eu beaucoup moins d'impact. Il n'a pas eu l'impact souhaité par les républicains, en tout cas, tandis que le président Barack Obama a permis de mobiliser le vote des jeunes en particulier.
Alors, rapidement, avant d'aller aux commentaires Facebook, René, comme en 2020, en tout cas pour ce qui est du Sénat, on risque, disons, de se focaliser encore sur la Géorgie.
Oui, la Géorgie revient à nouveau. Et c'est intéressant parce que vous savez, Abdourahmane, la Géorgie était un État rouge, hein, c'est un État du Sud, un État républicain, que donc sur deux élections, deux cycles électoraux, les démocrates arrivent à se retrouver en relative pole position dans cet État. C'est quelque chose d'assez remarquable qui, je crois, doit être mis au bénéfice de Stacey Abrams,
même si elle a perdu
face à Kemp au niveau des élections pour le gouvernement.
D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Yao Marcelin est à Abidjan. Il nous dit: le renouvellement du Congrès américain est l'occasion pour les citoyens de juger la politique du président. Rien n'est gagné d'avance pour les démocrates, même avec le soutien du très influent Barack Obama. C'est une élection de mi-mandat ouverte. Laurent Lipassa Mujimai en RDC, il écrit: la conquête et la reconquête du pouvoir politique dans tout État est normale. La survie politique de l'actuel président américain est liée à ses législatives de mi-mandat. Restez fidèles à VOA Afrique. Washington, le forum revient après une courte pause.
Se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
Pour la seconde partie de Washington Forum, et je rappelle nos invités à Washington, Marilyn Sefok, le professeur de langue à Howard University, à Dallas, au Texas, Junior Bonpetti, fondateur de Congolese for Trump, et en studio ici avec moi à Washington, René Lecq, analyste politique, analyste sur les questions américaines. Alors Marilyn, quel enseignement tirer du vote des minorités qui sont une composante essentielle de la base démocrate? On voit qu'en Floride ou même au Texas, les républicains sont en train de gagner du terrain dans cet électorat hispanique par exemple. Est-ce que c'est un risque pour les démocrates?
Pas vraiment, parce que quand on observe par exemple les résultats d'un État comme la Géorgie, les Hispaniques ont voté à 50% pour les démocrates et à peu près à 50% pour les républicains. Ce qui fait que, si vous voulez, si on vote, quand un groupe vote à 50-50%, cela ne peut pas représenter vraiment un gros handicap pour les démocrates. les démocrates. Par contre, le vote qui est extrêmement important, qui est extrêmement puissant, c'est le vote des Noirs américains qui votent à 80, entre 82 et 97 %, 83 84 pour les hommes et 96 % pour les femmes noires américaines votent pour le candidat démocrate. Et c'est justement ce groupe qui fait la force des démocrates, et c'est dû en grande partie à l'histoire des Noirs américains, parce qu'on ne peut pas aider, qu'on ne peut pas connaître vraiment l'histoire des Noirs américains et voter républicain en 2022.
En tout cas, on voit aussi, même au niveau des hommes noirs aussi.
Au niveau des hommes noirs, il s'agit de 84% en général de l'électorat noir américain qui vote pour le candidat démocrate. D'accord. Et cela montre que le Parti démocrate, quelque part, répond aux aspirations et du peuple noir américain.
Junior, bon petit, pour vous, les leçons de ces élections pour les républicains, surtout en perspective des élections de 2024, c'est quoi?
Bon, moi, je dirais le contraire de ce que madame a dit, et surtout ici au Texas et en Floride, où nous sommes en train de constater cette vague, ce changement de la minorité vers le républicain, parce que c'est nous votons pour nous-mêmes, vous voyez, pour nos valeurs chrétiennes, nos valeurs familiales. Nous sommes ici pour American Dream, pour le rêve américain. On nous a toujours vendu ces narratifs de « on vient vous aider, on vient vous faciliter, les démocrates ». Historiquement parlant, même madame a parlé de l'histoire, nous savons que les 23, les tout premiers sénateurs noirs étaient des républicains. Du reste, Abraham Lincoln, qui a aboli l'esclavage, c'était un républicain. Alors, pour revenir ici, c'est ce qui se passe au Texas. Nous avons la victoire de Monica de la Cruz, au sud du Texas, où dominé par les républicains et dominé par les démocrates et la communauté hispanique. Vous voyez, ils ont compris que la frontière est ouverte, l'insécurité, les crimes augmentent, l'économie, l'inflation, et nous voulons protéger nos enfants. Nous n'avons pas besoin des leaders qui viennent endoctriner nos enfants. Nous envoyons nos enfants à l'école pour apprendre le maths, pour apprendre la science, pour être meilleurs. Donc, c'est cette vague-là qui doit changer. Et même là, nous sommes en train de projeter pour 2024 qu'il y ait ces vagues-là entre la population africaine ou noire vers les républicains. Parce que nous avons vu ça avec Donald Trump. D'accord. En 2020, il y a eu un taux élevé de noirs qui ont voté pour les républicains.
Et vous, René, quelle est un peu votre analyse sur l'électorat? Oui, d'accord, on va vous donner la parole, Maëline. René, un peu sur cette question de l'électorat, quelle est votre lecture à la sortie de ces élections?
Oui, écoutez, moi je crois que les choses changent un peu. On a dit que la Géorgie devenait un peu plus rouge, un peu moins rouge, un peu plus bleu, on pourrait dire, parce qu'il y a ce petit mouvement vers les démocrates, mais on peut dire également que la Floride devient de plus en plus rouge. La victoire de Ron DeSantis en Floride était nette. Et en plus de ça, face à Christ, qui lui était un ancien gouverneur et qui était, somme toute, relativement populaire, même si c'est un transhumant, comme on dit.
Donc la carte électorale est en train de changer, selon vous.
En tout cas, sur ces deux points-là. L'autre chose aussi très marquante, c'est ce qui se passe à New York, notamment à Long Island, où les démocrates ont perdu un certain nombre de sièges au niveau du Congrès et qui sont passés républicains. On a le même phénomène également en Californie, où il y a eu plusieurs comtés dans lesquels les républicains ont gagné et qui étaient pourtant qui étaient au fond démocrates pendant longtemps. Donc je crois que il y a ça bouge de part et d'autre, mais je crois que les deux facteurs les plus importants, ça a été le vote des jeunes, donc on a dit plus 25% en Géorgie et en Arizona, mais également, comme le disait Marilyn tout à l'heure, le vote des femmes et en particulier des femmes noires.
D'accord. Marilyn, est-ce que vous pensez quand même que les démocrates doivent se battre un peu plus pour conserver leur base et ne pas considérer cette base-là comme acquise?
Ils doivent se battre un peu plus et doivent surtout changer le message, parce que le message compte énormément dans les campagnes. Et il faut dire que Les républicains, ils ont mis l'accent sur la religion, ils ont mis l'accent sur les valeurs, mais on se rend bien compte que les valeurs qu'ils présentent comme sur un plateau d'argent, cette chrétienté et tout, ne se reflètent pas du tout dans leurs actions, ne se reflètent pas dans la façon dont ils conduisent leur vie pour certains candidats. Et on l'a vu d'ailleurs avec Herschel Walker qui mettait l'accent sur toutes les valeurs chrétiennes du monde, sur aussi le fait que les femmes ne devraient pas avorter, alors que lui-même il a payé pour un avortement. Donc quand certains républicains s'expriment, souvent il est très bon de regarder un petit peu, d'examiner leur vie et de voir que vraiment ils ne répondent pas du tout, que la religion qu'ils utilisent est une religion qui est devenue instrumentalisée par la politique.
D'accord, alors on va terminer rapidement, on a peut-être 3 minutes. Junior, comment tout cela selon vous peut influencer sur les élections de 2024 et les potentielles candidatures à la présidentielle? On parle de Trump et vous êtes en soutien de Trump. On a quand même vu DeSantis se placer. Et comment est-ce que vous voyez tout ça, peut-être en une minute?
Merci beaucoup. Donc, nous soutenons farouchement le président, la candidature de Donald J. Trump et aussi DeSantis, parce qu'un candidat républicain est meilleur 100 fois plus qu'un candidat démocrate, et nous avons plus besoin d'avoir une bonne vie, nous avons besoin d'une bonne économie, nous avons besoin de vivre notre rêve américain, nous avons besoin d'une politique étrangère adequate comme celle de...
Un taux de chômage de moins de 4% en ce moment, quand même, on ne peut pas nier cela.
Oh, ben, alors,
c'est vrai qu'il y a l'inflation, mais...
Lors de l'administration Trump, c'était à moins de 3,5%.
D'accord. Merci beaucoup. Alors René, pour 2024, comment est-ce que vous voyez tout cela, surtout côté démocrate aussi?
Oh, du côté démocrate, bon, la grande question, c'est est-ce que Biden va y aller à nouveau, parce que vous savez, il était question au départ qu'il soit un président de transition d'un mandat.
Et Trump, après tout cela, face à DeSantis.
Voilà, et Trump également, il semblerait qu'il va peut-être annoncer très prochainement sa candidature. Mm. Et ses relations avec DeSantis, comme vous savez, sont extrêmement tendues. On fait même dans l'injure et dans l'insulte dans cette relation-là. Donc ça va être tendu, ça va être difficile. Il n'est même pas évident que Trump passe les primaires chez les républicains, puisque vous savez que en ce moment déjà de nombreux républicains...
Vous provoquez un peu notre ami Junior là.
Mais vous savez, de nombreux républicains remettent en cause sa candidature en disant que, étant donné que c'est lui le principal perdant des élections là, il serait difficile pour lui de se positionner. Alors, mais enfin, je crois que dans tous les cas, ça va être intéressant à suivre.
Oui. Oui, Marilyn, pour vous, 2024, côté démocrate, c'est quoi?
Alors, évidemment, le président Biden, je pense qu'il va se représenter. Beaucoup de gens, beaucoup d'électeurs évoquent son âge. Alors, s'agit-il du âgisme? Parce que ça existe également, que quand on examine un candidat, que l'âge soit pris en compte, alors que finalement, ce qui compte, ce sont surtout les facultés du candidat et non son âge. Donc, on suppose que le président Biden va se présenter à nouveau. Et quand on parle d'âge, au fait, il n'y a que 3 ans d'écart entre le président Biden et l'ancien président Trump. Donc on pourrait parler, l'âgisme pourrait aussi jouer contre le candidat Trump également.
Là, vous ouvrez un autre débat, certainement qu'on va aborder une prochaine fois, la question de, peut-être certains évoquent le renouvellement de la classe politique américaine. Et on en parle beaucoup en Afrique, mais on voit aussi que c'est un débat qui existe ici. Alors nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission, je dirais débat à suivre. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.